France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec, à nos côtés ce soir, une femme qui n'est pas du genre à se laisser impressionner. Une femme qui aime s'attaquer à des montagnes et plus elles sont hautes, plus elle aime ça. Car ce qui intéresse Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine, c'est de dénoncer les injustices et, si possible, de faire condamner les oppresseurs. Et peu importe où cela se passe, en bas de chez elle ou au bout du monde. Sont ainsi tombés dans son escarcelle des généraux argentins et des trafiquants d'organes colombiens, ce qui lui a d'ailleurs valu au passage le prix Albert Londres, excusez du peu. Depuis 10 ans, dans son collimateur, le géant américain Monsanto, qui a poussé des millions de paysans dans le monde à semer des OGM et à utiliser du glyphosate, on en parlera évidemment avec elle car le sujet reste d'actualité, y compris ici en France. On parlera aussi de son dernier film consacré au territoire zéro chômeur, car elle est comme ça Marie-Monique Robin, elle croit toujours qu'un monde meilleur est possible. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine avec toujours à la une la colère des gilets jaunes, mais aussi le dernier scandale sanitaire en date, celui des implants médicaux révélés cette semaine par le consortium international des journalistes d'investigation. On y reviendra avec Jacques Monin de Radio France. Enfin, pour se changer les idées, on fera connaissance avec Peyo, un cheval qui va jusque dans les chambres d'hôpital, au chevet des malades. Si vous ne me croyez pas, rendez-vous vers 18h50 pour les bonnes ondes de Sandrine Houdin. À 19h20 au téléphone sonne, la suite de notre semaine spéciale consacrée à l'environnement à la veille de la COP24. Ce soir, question à des élus déjà engagés dans la transition écologique. On sera avec les maires de Grenoble, Grande-Synthe et Ungersheim. Vos questions au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Marie-Monique Robin.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. On est ravis de vous recevoir dans le cadre de cette semaine qui est donc consacrée à la préparation de la COP24. Il se trouve que vous faites partie de ceux qui, depuis bien longtemps déjà, contribuent à la lutte pour la préservation de la planète à travers toutes vos enquêtes. Je pense notamment à votre travail sur le géant américain Monsanto, auquel vous avez consacré un film il y a 10 ans, Le Monde selon Monsanto, qui a contribué à nous ouvrir les yeux sur le sujet. Il se trouve qu'on n'a jamais autant parlé des dangers du glyphosate et pourtant on continue de l'utiliser. Et si je commence par là, c'est parce que c'est un des combats de votre vie. Récemment, aux États-Unis, Monsanto a été condamné à verser des millions de dollars à un jardinier qui est souffrant d'un cancer attribué au Roundup. Or, il y a quelques jours, la semaine dernière, on a appris que Monsanto faisait appel de cette décision. Ça veut dire quoi? Que la bataille n'est pas terminée?
Non, je pense que la bataille n'est pas terminée, même si symboliquement, c'était très important que ce jardinier, qui est défendu d'ailleurs par l'avocat qu'on voit dans mon film, le Roundup face à ses juges, ils sont aujourd'hui plus, près de 9000 à avoir porté plainte contre Monsanto. Donc ce jardinier gagnait en première instance. Alors vous avez vu peut-être qu'une juge californienne a essayé d'éviter un second procès en proposant de réduire l'indemnisation de ce jardinier. Le jardinier a accepté. Et Bayer, parce que maintenant, vous savez, Monsanto s'est marié.
Repris, voilà,
par Bayer, l'allemand.
Ce qui va d'ailleurs donner lieu à un énorme plan social aujourd'hui.
Exactement. Et d'ailleurs, le cours de l'action Bayer a chuté énormément, 30% depuis ce mariage. Donc voilà, ce n'est pas terminé. Je pense même qu'ils vont aller le plus loin possible dans les mesures pour gagner du temps, etc. La question qui mérite aussi d'être posée, c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'arranger aussi pour finalement que Monsanto
soit avalé pour qu'il n'y ait plus le nom Monsanto, voilà, et qu'il n'y ait plus de procès possible.
Et puis surtout, plus que ce soit une coquille vide et qu'on dise finalement, on découvre que Bayer a repris, on va faire simple, que les actifs et pas le passif, et puis dire, moi je ne paierai pas parce que ça ne me concerne pas. C'est une question. Moi je travaille là-dessus, c'est difficile d'avoir la réponse, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important, même pour les agriculteurs de notre pays, de savoir qu'un tribunal en Californie a condamné Monsanto, en première instance, on va voir jusqu'où ça va, dans une histoire de cancer liée à l'épandage de glyphosate.
Sachant qu'il y a des plaintes ici aussi en France, pour mise en danger de la vie d'autrui en Bretagne et en Ariège, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un mouvement. Alors, déjà, il y a donc Sabine Grataloup, la maman du petit garçon qu'on voyait dans mon film, qui a aussi porté plainte.
Victime d'une malformation.
Voilà, le petit garçon était victime d'une malformation congénitale. Elle avait passé du Roundup, enfin un herbicide à base de glyphosate, en tout début de grossesse. Donc, elle a porté plainte. Il y a aussi Paul François, qui était dans mon... un autre film et livre qui s'appelait Notre poison quotidien.
Un agriculteur.
Un agriculteur qui lui a passé un autre herbicide, mais qui a aussi porté plainte, a gagné en première instance, en seconde instance et en cassation maintenant. Et puis, il y a partout en France des... ça c'est super, je trouve. Des Français qui font pipi dans un flacon.
Pour voir où ils en sont.
Ça a commencé en Ariège. Et ils ont tous du glyphosate dans leurs urines, exactement comme moi quand Génération Future m'avait demandé avec Delphine Bateau, Émilie Loiseau, de faire pipi dans un flacon. Nous avions tous du glyphosate dans nos urines. Et en même temps, donc, c'est des collectifs qui sont en train de s'organiser partout, y compris en Bretagne. Ils portent plainte parce que voilà, on a dans notre corps tous le résidu d'un herbicide cancérigène, perturbateur endocrinien, éminemment toxique.
Un herbicide qui n'est toujours pas interdit en France. La France est simplement engagée à sortir du glyphosate dans 3 ans, Marie-Monique Robin. Le gouvernement, il tape sur le volontariat. Est-ce que c'est la bonne méthode,
alors,
ça?
Il y a un truc complètement contradictoire. Vous savez, depuis 2 ans, les collectivités locales n'ont plus le droit de l'utiliser, au titre même, enfin, y compris d'autres herbicides. Au 1er janvier 2019...
Les particuliers n'auront plus le droit plus, c'est ça?
Alors, pourquoi? Si on fait ça, c'est bien quelque part, il y a un problème, on est d'accord? Pourquoi est-ce que les agriculteurs pourraient continuer à l'utiliser? Donc ça, c'est une question, voilà. C'est pour moi très contradictoire. Alors pour l'instant, la France donc, s'est engagée à le retirer, mais d'ici 3 ans, l'Europe ayant, vous savez, prolongé l'autorisation de 5 ans, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été inscrit dans la loi. Vous savez, il y a eu toute une... Voilà.
Et aujourd'hui, en plus, on a appris qu'il y avait de nouvelles demandes d'autorisation pour 70 produits.
Voilà. Donc,
ça veut dire que le volontariat ne suffit pas.
Non, évidemment, non. Il faut absolument interdire et en même temps proposer des solutions alternatives qui existent. Moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. J'ai fait un livre qui s'appelait Les moissons du futur. Il y a des alternatives non chimiques. Je crois qu'il est temps
de rassurer les agriculteurs pour qu'ils ne se disent pas que ça va leur coûter une fortune de sortir du glyphosate.
Et puis les aider. Parce que moi, je comprends, je suis fille d'agriculteur, je l'ai toujours dit. Et voilà, mon papa, il a fait de l'agriculture industrielle pendant très très longtemps. Après, la ferme a été reprise par mon frère et maintenant elle est en bio. Il faut être accompagné. Parce que si vous dites à un agriculteur, oh, c'est interdit le glyphosate et puis voilà, débrouille-toi, évidemment qu'il a peur. Et c'est normal, parce qu'il faut réapprendre le métier quand on change de modèle agricole. Et pour ça, on a besoin d'une aide, comme on a fait au début des années 60, quand je suis née, on a fait une grande loi de programmation agricole, et on a envoyé des techniciens, on a organisé la formation dans les lycées agricoles. On peut faire la même chose, parce qu'il y a plein de gens dans notre pays qui savent cultiver sans pesticides.
Marie-Monique Robin, dans quelques jours, vous recevrez le prix littéraire des droits de l'homme pour votre livre « Le Roundup face à ses juges » aux éditions La Découverte. Ça, c'est la version livre de votre documentaire.
Souvent, je fais les deux.
Voilà. C'est l'histoire de ce procès qui a eu lieu aux Pays-Bas, procès symbolique, entre guillemets, pour l'histoire, avec des vrais juges, de vraies victimes. Procès donc du Roundup. Le jour où Nicolas Hulot, puisque c'est lui qui va vous remettre ce prix, va vous le remettre, qu'est-ce que vous allez lui dire?
Je vais lui dire que c'est très important qu'il continue le travail qu'il a commencé il y a très longtemps pour protéger... Alors, je ne vais pas dire la planète, parce que la planète, elle va s'en sortir sans nous, quand on ne sera plus là. Ce bipède très prétentieux qui est en train de détruire la maison commune de laquelle il dépend pour vivre, et qu'on a besoin de voix comme Nicolas Hulot. Donc je suis très contente, c'est lui qui avait préfacé mon livre « Le monde selon Monsanto », donc je suis très contente qu'il me remette ce prix, et qu'il retrouve sa liberté de parole, et il est très important qu'il continue de parler, voilà.
Même moi, il y a eu une forme de constat d'échec par rapport à son action.
Même moi, j'ai fait mon travail je suis toujours à la société civile, hein, quand il avalait les couleuvres, comme on disait entre nous, voilà, c'était l'expression, on faisait notre travail en disant, faut pas les avaler, les couleuvres. Bon, voilà. Mais n'empêche que les paroles qu'il a eues ici, quand il a démissionné, je peux vous assurer, je fais du vélo tous les matins chez moi. J'ai failli tomber de mon vélo. Et là, récemment aussi, dans l'émission politique, avec Léa Salamé. Donc voilà, c'est une parole importante. Et j'espère que... Et je pense qu'il a obtenu, ce qu'il cherchait quand même, quelque part, c'était ce sursaut.
De la société civile.
Ah oui, parce que je le vois. Je me balade beaucoup avec mes films et mes livres, et je le vois. Donc maintenant, il faut que les sursauts continuent et soient de plus en plus importants pour qu'on change de modèle économique. Je pense que voilà, c'est ça la clé.
On y reviendra évidemment, Marie-Monique Robin. Je précise donc le Roundup face à ses juges aux éditions La Découverte. Il y a aussi la version documentaire pour ceux qui auraient peur de lire un livre, évidemment. On va passer à l'actualité de la semaine maintenant avec ce mix qui a été mis en onde par Marianne Crimbaud. À la une cette semaine, la réponse d'Emmanuel Macron à la colère des Gilets jaunes. Une réponse qui n'a pas forcément eu l'effet escompté.
Là, franchement, j'ai rien compris ce qu'il a voulu dire en parlant de son histoire de taxes. Du cours mondial, là, c'est pareil, on n'a rien compris à ça. Il y a 3/4 des mots, on est obligé de prendre un dictionnaire pour traduire ce qu'ils ont dit. Parce qu'on ne comprend pas tous les mots qu'il emploie. Ça serait mieux s'il parlait un peu plus dans notre langage.
Je pense qu'il ne nous a pas entendus en fait. C'est des paroles juste pour qu'on dorme et qu'on rentre chez nous.
pas convaincu par le discours d'Emmanuel Macron mardi, ses gilets jaunes. Il faut dire que le chef de l'État n'a pas renoncé à la hausse des taxes sur les carburants.
On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Hein ?
Non, je dis qu'est-ce qu'il dit ?
Emmanuel Macron a toutefois accepté de mettre en place un mécanisme de modulation des prix en fonction des cours du pétrole. Il a également annoncé une consultation décentralisée dans les 3 mois. Mais pour l'eurodéputé vert Yannick Jadot, le compte n'y est pas.
Il n'y a aucune annonce de mesures d'accompagnement, aucune annonce de justice sociale. Et puis on reste totalement piégé par le nucléaire, on reste dans les énergies du vieux monde.
Une occasion manquée et la volonté de gagner du temps. Voilà le sentiment général dans la classe politique, de la gauche à la droite de la droite.
Il y a des gens qui ne bouclent pas leur fin de mois. Qu'a dit le président à ces gens-là aujourd'hui ? Rien. Monsieur le Président de la République, lui, il brasse du vent, c'est une éolienne à lui tout seul.
Sur ce coup-là, le député du Rassemblement National, Louis Alliot, n'est pas loin de partager le point de vue du député insoumis Jean-Luc Mélenchon.
Nous allons tout droit vers une situation explosive si on continue à répondre à des revendications très concrètes et de grandes souffrances par des paroles creuses et des discours fumeux.
Du côté de La République En Marche, le malaise est de plus en plus perceptible. Alors certains plaident pour une pause à l'image du député Patrick Vignal.
Si on veut que ça s'apaise, il faut faire un signe. Et le signe, il est très très simple. On fait une pause sur les carburants et sur le gaz. On est obligé de la faire.
Face au vent de fronde qui souffle sur le pays, le gouvernement a tout de même accepté de recevoir des représentants des Gilets jaunes, représentants parfois contestés d'ailleurs. Mais à la sortie de la rencontre avec le ministre de l'écologie, le constat était toujours le même.
Ce qu'on leur a dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait un besoin de travailler sur le pouvoir d'achat par une baisse des taxes en général et qu'il y avait une volonté de créer une assemblée citoyenne.
Priscilla Ludowski à l'origine de la première pétition contre la hausse des taxes sur les carburants.
Pour que les gens puissent s'exprimer, pour que leur avis compte et les personnes ont le sentiment que leur avis ne compte pas.
Résultat, des gilets jaunes plus déterminés que jamais à monter à Paris.
S'il faut casser les trucs pour se faire comprendre, et ben moi je le ferai.
Voilà. On ne lâchera pas. Ils montent avec moi à Paris samedi.
Paris où les commerçants des Champs-Élysées ont du mal à se remettre des scènes de violence de samedi dernier.
Ils ont cassé toutes les vitres, ils les ont tagués.
Moi j'ai peur. Hein. Je me demande si carrément je vais venir travailler samedi prochain.
Demain, Emmanuel Macron ne sera pas là. Le chef de l'État est en Argentine pour un sommet du G20 placé lui aussi sous très haute surveillance. Un mot de l'autre manifestation qui a réuni des milliers de personnes samedi dernier à Paris. Manifestation pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mais là non plus, le compte n'y est pas pour le collectif pour le droit des femmes.
Il y a eu une formidable prise de conscience avec MeToo l'an dernier. Et on a eu une loi qui ne répond pas du tout à l'exigence de MeToo.
Les femmes omniprésentes dans les cortèges des Gilets jaunes, c'est peut-être ça aussi la révolution en marche. Sans parler de l'équipe de France de Coupe Davis, bientôt drivée par une femme, Amélie Mauresmo, car Yannick Noah, après la défaite des Bleus, a tiré sa révérence.
C'est fini, moi, le tennis pour moi maintenant, le tennis de compétition c'est terminé, là. Je pars dans ma vie, quoi. Si on se croise un jour dans la rue, qu'on aille se boire une bière, quoi. Donc merci à tous.
On laisse nos chaussures au placard. Et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents. On prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris.
Voilà pour ce petit résumé de l'actualité, Marie-Monique Robin. Vous qui venez d'un territoire rural, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de Courget, village des Deux-Sèvres. Vous comprenez la colère des gilets jaunes, de ceux qui ont besoin de leur voiture ?
Alors, je comprends la colère des gilets jaunes, parce que effectivement, on le voit dans un milieu rural comme celui où vivent toujours mes parents, y a vraiment un sentiment d'abandon. Voilà. Quand on est une personne âgée aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous, enfin n'importe où, c'est très compliqué, les hôpitaux sont fermés, il faut aller à 50, 80 kilomètres. On a tout fait aussi pour créer une dépendance totale à la voiture. Les centres-villes sont morts. Moi, je suis allée au lycée dans une petite ville qui s'appelle Parthenay, tous les rideaux sont tirés, c'est une très jolie ville, et c'est vrai partout. On a laissé mourir les centres-villes, on a créé partout des zones, vous savez, avec des grands centres commerciaux. Ça, il y a une vraie responsabilité des politiques dans cette transformation des paysages urbains et périurbains. Mais ça veut dire que sans voiture, c'est très difficile de se déplacer. Alors je dis aussi, parce que j'en ai parlé avec ma famille, je dis quand même, il y a aussi une chose qui s'est produite, c'est que maintenant, à la campagne, souvent, pour aller acheter une baguette de pain à 1 km, on prend la voiture. Alors, quand j'ai taquine, je dis il y a plus de vélos à Paris qu'à la campagne. Donc, il y a aussi des réajustements à faire. Voilà. Mais il n'empêche que je pense que cette colère des gilets jaunes, elle est liée, voilà, à tout ce qui s'est, tout ce délitement, y compris des liens sociaux. Hein, et puis l'augmentation de la pauvreté, la précarité frappe de plus en plus de monde. Hein. Je vous rappelle qu'il y a près de 9 millions de personnes dans notre pays qui vivent au-dessous du
seuil de pauvreté.
Le seuil de pauvreté. Au cours des 10 dernières années, c'est 800 et quelques mille en plus. C'est une réalité et moi j'ai vu partout des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Cela dit, je pense que si on faisait une véritable transition écologique comme celle que j'appelle de mes voeux, enfin je ne suis pas la seule, hein, mais voilà, il faut taxer le carbone et il faut taxer les carburants. Mais pas comme ça, vous voyez. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est-à-dire, il faut un véritable plan de transition. C'est ce que j'imaginais dans mon livre Sacrée Croissance, hein, où j'imaginais en 2034 que nous avions réussi la transition. Donc, c'est une véritable feuille de route où on explique aux Français, vous voyez ce qui se prépare là, hein, c'est grave. Enfin, il faut le dire maintenant. Maintenant, on peut parler d'effondrement. Il y a quelques temps, c'était très difficile. Même le pape en a parlé dans l'encyclique Laudato Si. Hein. Donc voilà, on va vers l'effondrement collectif et ça ne va pas être rigolo. Hein. Donc, soit on anticipe collectivement, et on peut encore s'en tirer, excusez-moi l'expression, hein, et pensons à nos enfants et petits-enfants. Et d'ailleurs, ça peut être beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Soit nous anticipons, et si nous n'anticipons pas, nous allons subir. Et là, ça ne va pas être rigolo du tout. Donc, mais on explique. Il faut donc arrêter, il faut diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça
surtout
passe.
Surtout qu'avec de bonnes mesures, on peut au final faire des économies. Mais ça, on en parlera tout à l'heure dans le téléphone sonne, avec justement les maires qui ont mis en place ce qu'il faut pour faire des économies. Et
tout à fait,
on
sait ce qu'il faut faire. Alors, oui, quand on vous dit, t'as des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est pas le cas de tous ceux qui sont dans les gilets jaunes, je regarde ça d'assez près quand même, il y a des porte-paroles, bon, eh bien, évidemment, que ça va pas, si vous taxez pas le kérosène en même temps, les avions, les paquebots, les grosses berlines, enfin, etc., je viens de lire un chiffre d'attaque, les 1400 sites industriels les plus pollués en France ne payent pas la taxe carbone que payent les ménages, par exemple. Donc, vous voyez, c'est ça qui crée aussi un sentiment d'injustice et il est légitime.
Absolument. Marie-Monique Robin, j'ai fait exprès, parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que vous êtes là, de mettre ce petit extrait de la manifestation de samedi dernier contre les violences faites aux femmes, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé il y a un bon moment déjà.
Oui.
Hein. Vous avez sorti un film, La révolte des femmes battues.
J'ai fait La révolte des femmes battues, et puis ça c'était pour M6, et j'ai fait aussi un documentaire sur l'histoire du planning familial qui était pour France 5. C'est un sujet, le droit des femmes, enfin les droits humains en général, donc les droits enfants, les droits des femmes, que je suis de près.
Comment vous choisissez vos sujets? C'est les coups de cœur?
Oui. Et puis c'est l'air du temps. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça, mais je sens les choses et je me dis voilà. Et puis après, ça, vous savez, c'est comme un collier, les perles elles s'enfilent. Et j'ai fait Escadron de la mort à l'école française. Ensuite, il y a eu Torture au milieu essai. Bon, vous voyez, il y a des sujets qui voilà. Mais c'est dans l'air du temps. Je renifle.
Voilà, votre dernier documentaire qu'on verra bientôt sur France 2 est consacré à l'expérimentation Territoire zéro chômeur.
De longue durée.
De longue durée, absolument. Et je propose qu'on écoute un tout petit extrait.
Je voudrais prouver à tous les gens qui disent qu'on n'est qu'une grosse bande de feignants que quand les gens ils se prennent en main, on peut faire des choses merveilleuses en partant de rien. À partir du moment où les gens qui sont là pour nous diriger nous font confiance. C'est-à-dire que si on pose quelqu'un sur un banc avec 400 balles par mois en lui disant « Toi, tu restes là et tu bouges plus, mais tu nous fais pas chier parce qu'on te nourrit », voilà, on va directement dans le mur. C'est quelque chose de ridicule de maintenir les gens comme ça dans une agonie sociale, je dirais.
Utiliser l'argent du chômage pour faire travailler les chômeurs, c'était l'idée géniale d'ATD Quart-Monde.
Ouais, c'est super. C'est super. Projet, hein. Voilà, ils ont calculé, ATD Quart-Monde, donc, qui travaille beaucoup avec ceux qu'on appelle les pauvres, hein. Ils ont calculé qu'un chômeur de longue durée, ça coûtait à peu près 18 000 euros à la France, hein. Soit c'est des allocations, etc. Et ils ont donc permis le vote d'une loi qui permette un transfert de cet argent pour créer des emplois et payer des emplois. Et moi, j'ai filmé pendant 3 ans, avant même que la loi passe, donc comment le territoire de la ville de Mauléon dans les Deux-Sèvres, il y a 10 territoires expérimentaux en ce moment, hein. Eh bien, préparer cette loi, etc., comment recenser les chômeurs de longue durée, comment ils ont créé la boîte. Et ce qui est assez magique dans cette chronique, c'est qu'on voit la transformation des gens.
Des gens.
Celui absolument. Qu'on vient d'entendre, il s'appelle Philippe. Eh bien, il est en cure des intoxications actuellement. Enfin, voilà. Et on voit aussi comment cette entreprise, qui ne doit pas rentrer en concurrence avec l'économie classique, répond à plein de besoins non satisfaits parce qu'ils ne sont pas rentables dans l'économie dominante. Et ça, c'est un beau message. Et je trouve que c'est une expérimentation absolument remarquable.
Que l'on suit sur France Inter depuis des années, je tiens à le préciser. On va revenir maintenant, Marie-Monique Robin, sur une des principales informations de la semaine, la révélation du scandale des implants médicaux. Les révélations faites par le Consortium international des journalistes d'investigation, dont fait partie la cellule Investigation de Radio France, laissent sans voix, surtout qu'il y va de notre santé. Mais force est de constater que tout le système de contrôle et d'homologation de ces dispositifs médicaux destinés au corps humain est à revoir. Alors, expliquez-nous ça, Jacques Monin.
En fait, si vous voulez mettre sur le marché européen un implant, il faut obtenir d'un organisme de certification ce qu'on appelle un marquage CE. Seulement, ce marquage, il est tellement simple à décrocher qu'une consoeur néerlandaise a réussi à faire croire à trois de ces organismes qu'un filet de mandarine était un implant vaginal. Et nos confrères de Cash Investigation ont réédité l'exploit. Ils ont fait croire qu'ils avaient ce marquage CE pour un implant tout aussi bidon. Et la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du médicament, leur a donné le feu vert pour le commercialiser. C'est Marie Maurice qui s'est occupée de ça et elle nous raconte comment elle a procédé.
On a monté une boîte. Donc on a envoyé un exemplaire de la notice d'utilisation en français, un formulaire de déclaration et une copie de l'étiquette. Quelques semaines plus tard, on a reçu une réponse de la NSM nous disant « Bonjour, vous recevrez un accusé de réception dès que nous aurons procédé à l'enregistrement de vos dispositifs médicaux. Toutefois, et c'est la phrase importante, toutefois, vous n'avez pas besoin d'attendre ce document pour faire la mise sur le marché de vos dispositifs médicaux. »
Alors ça paraît dingue, et ça l'est, mais dès qu'on a ce fameux marquage CE, on peut vendre où que ce soit en Europe. Et ce marquage, il est délivré par des organismes concurrents qui certifient aussi des machines à laver ou des grilles-pain. Et ça, c'est un problème pour la députée écologiste européenne Michèle Rivasi.
Comme ils sont privés, plus ils vont obtenir des certifications, plus ils vont être payés. Et vous voyez que c'est un truc malsain. Aux États-Unis, ils sont draconiens là-dessus. Ils ont un organisme central de certification qui est public. Alors que là, nous, on va dans le privé et on va sur une multiplicité d'organismes de certification. Mais c'est des gens qui sont là pour faire du fric.
Dans ce contexte, on pourrait donc attendre des autorités françaises qu'elles surveillent les implants de près, mais pas du tout. Avec nos confrères partenaires de l'ICIGE, nous avons récupéré le registre de l'ANSM qui recense tous les incidents en France. Et lorsqu'on l'a examiné de près, on est tombé de haut. De nombreuses lignes de cette base de données ne sont tout simplement pas remplies, explique Chloé Ketzweiler du journal Le Monde.
Dans un tiers des cas, le dysfonctionnement n'est pas identifié, donc on ne sait pas ce qui a posé problème au moment de l'implantation ou un peu après. Et dans plus de 80% des cas, les conséquences cliniques ne sont pas renseignées pour le patient, donc on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. On a aussi des dates qui sont renseignées déjà pour 2019. On imaginait que, au XXIe siècle, avec tous les outils dont on dispose, les données seraient davantage utilisées pour identifier les problèmes. Ça nous a paru inquiétant.
Alors je précise qu'une nouvelle réglementation européenne plus stricte va quand même entrer en vigueur, mais pas avant mai 2020. Et le principe des organismes certificateurs privés, lui, a été conservé.
Jacques Monin, Marie-Monique Robin, c'est pas vous qui allez être étonnée par ce genre de scandale sanitaire, vu la façon dont ça se passe.
Ouais. Alors là, ce qui est quand même, c'est le pompon, excusez-moi si j'ose dire, c'est que l'entreprise qui est censée le contrôler paye le contrôleur et aussi les études cliniques. Enfin, voilà. Mais derrière tout ça, il y a quand même un problème récurrent. Ça concerne aussi les produits chimiques. Là, on est dans les implants, mais c'est le processus de réglementation des produits, quoi. Voilà. Et qui rentre en particulier en contact avec les organismes vivants que nous sommes, les humains, etc. Et voilà. Et là, il y a le problème du conflit d'intérêts est partout. Et on a vraiment besoin d'une refonte complète de ce dispositif de réglementation.
Sinon, j'aimerais savoir sur la méthode que vous inspirent ces enquêtes à grande échelle menées par des armadas de journalistes, d'où qui travaillaient en solitaire pratiquement.
Oui, je trouve ça. Alors, oui, c'est vrai, je travaille beaucoup toute seule parce que ça prend 2 ans, moi, mes enquêtes. Je tire les ficelles, c'est patient, enfin voilà. Mais je trouve formidable, en fait, de rassembler tous ces journalistes de différents continents, en plus, qui échangent des informations, etc. Je trouve que c'est vraiment super, voilà. C'est inspirant.
Mutualisation des moyens.
Des moyens,
tout
voilà.
Tout seul, ça ne doit pas être évident tout le temps, parce que quand on s'attaque à certains sujets, il y aura même des menaces.
Oui, mais en même temps, il y a parfois, il faut aller, il faut être très prudent la manière dont on aborde les gens. Moi, j'aime bien avoir les gens devant la caméra quand je filme. Hein. J'essaie vraiment d'essayer de les convaincre de parler devant la caméra. Bon, il y a des fois, on ne peut pas le faire. Hein. Le fait de suivre toute une histoire du début à la fin permet d'éviter des erreurs, enfin, et voilà, bon, c'est ma manière de faire. Et puis, comme j'écris toujours un livre, c'est aussi ça, du coup, j'ai une vision complète du dossier, quoi, et ce qui fait qu'après, je peux en parler pendant des années.
Absolument. Qu'est-ce qui vous anime, Marie-Monique Robin? C'est le faire respecter les droits humains, rendre le monde meilleur, c'est ça?
Oui, quand j'ai fait une école de journalisme, je voulais le faire pour changer le monde. C'est très prétentieux, hein, je suis tout à fait consciente. Vu le résultat, je me dis forcément, c'est pas forcément très... Enfin bon. C'est un moteur. Et moi, mais au-delà de ça, je pense que nous les journalistes, nous avons quand même une fonction très particulière. Vous savez, mon maître, c'est Albert Londres, qui a dit « Notre métier, c'est pas de faire du bien, ni de faire du tort, c'est de mettre la plume dans la plaie. » On parle de quatrième pouvoir, c'est pas n'importe quoi, le quatrième pouvoir. Comme les trois premiers, vous savez, le législatif, l'exécutif, ils sont censés œuvrer pour le bien commun. Je pense que nous avons aussi cette fonction. Donc, ça nous donne des responsabilités. Et voilà, donc... C'est pas de la communication quand on est journaliste, c'est un métier tout à fait respectable, mais c'est pas le même métier. Donc, voilà. Alors, je continue d'espérer que nous pouvons changer ce monde.
Mon préféré, mon chaudi.
Du groupe Delgrès, choix musical signé Djoubaka pour France Inter.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Une semaine en France, toujours en compagnie de la journaliste Marie-Monique Robin. Alors, vous nous l'avez dit, Marie-Monique Robin, vous avez grandi dans un petit village des Deux-Sèvres, à côté de Parthenay. Vous étiez 6 enfants, c'est ça, dans la ferme familiale. Vos parents avaient donc une exploitation. Des parents, si j'ai bien compris, chrétiens de gauche, engagés à la Jacques, c'est ça, qui a fait que vous êtes passionnée pour les grandes causes.
Oui, c'est un peu une histoire de famille. Les droits humains, ça a toujours été un thème très important à la maison. On recevait beaucoup de monde, des jeunes en difficulté qui passaient, enfin. Et mes parents étaient très engagés dans toutes les... Tout, y compris Amnesty International. Donc les questions de droits humains, pour moi, j'ai choisi ce métier en fait pour défendre les droits humains. Hein. Enfin, voilà, vous m'avez posé la question, je dois être honnête, c'est la raison pour laquelle j'ai...
Et c'est tout à votre honneur. Alors vos parents, vous nous l'avez dit aussi au tout début, ils faisaient de l'agriculture intensive, ils arrosaient les champs de pesticides. Ouais. Et puis un jour, ils sont venus voir votre film, Le Monde selon Monsanto.
Avant-première à l'Arlequin.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a fait un infarctus,
ouais,
c'est ça?
Ouais.
Tellement le choc a été violent.
Il a été très touché. Enfin, il a eu un malaise cardiaque très... Voilà. Et quand on lui a demandé au centre cardiologique du Nord, pas loin de là où j'habite, s'il y avait une émotion, il a dit « J'ai vu le film de ma fille ». C'est important parce que, bon, c'est personnel cette histoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui comprendront. Les agriculteurs sont les premières victimes du modèle agro-industriel. Je connais plein de familles où il y a des malades. Et qui souffrent. Vous savez, ils ont, y compris mon père et sa génération, ils ont voulu à un moment, eux aussi, changer de monde. On leur a dit, vous allez nourrir le monde, hein, avec cette agriculture. Résultat des courses, non seulement ils n'ont pas nourri le monde, parce que vous savez, ceux qui disent qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides, ils oublient de dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides. Il y a près d'un milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim. 80%, ce sont des paysans. Hein. Donc, voilà. Alors, non seulement ils n'ont pas nourri le monde, ils se sont considérablement endettés. Mon grand-père n'avait jamais emprunté un centime, n'est-ce pas? Il payait toujours cash. Il allait les vendre deux vaches au marché de Parthenay pour acheter son premier tracteur, par exemple.
Et suite à ce qui s'est passé, Marie-Monique Robin, l'exploitation est passée au bio, c'est ça?
Oui, donc quand le film est sorti, Le Monde selon Monsanto, mon frère qui avait repris la ferme et qui était dans la même logique que mon père, eh bien, a dit on passe en bio. Elle est donc, elle est passée en bio déjà. Maintenant, elle a suivi le processus de conversion. Donc voilà. Donc c'est très dur pour les agriculteurs de changer de modèle. Aujourd'hui, vous savez que la moitié d'entre eux gagnent moins de 300 euros par mois. Hein. Donc il y a un agriculteur qui se suicide toutes les deux heures. Tous les deux jours. Donc voilà. Et donc si on veut transformer l'agriculture, on ne peut pas le faire contre eux. Il faut le faire avec eux. Et les consommateurs ont un grand rôle à jouer parce que ils peuvent par leur acte d'achat, encourager des agriculteurs, des maraîchers à changer de modèle, en espérant que le gouvernement accompagne cette transition le plus rapidement possible.
Marie-Monique Robin, vous savez que cette semaine, on demande à tous nos invités ce qu'ils font, eux, au quotidien pour l'avenir de la planète. Alors bon, il y a tellement de choses. Déjà, vous avez fait changer l'exploitation familiale, mais vous-même, vous avez une maison avec un jardin, c'est ça?
Voilà, j'ai une maison avec un jardin.
Tout est bio.
Voilà, bien sûr, hein, j'ai une ruche, j'habite dans le 93. Là, cette semaine, en fait, j'ai décidé une chose qui, finalement, n'était pas si facile que ça, parce que j'ai une maison assez grande, hein, de faire une rénovation thermique top, isolation extérieure des murs, etc. Et là, on se rend compte que vous avez le droit à un crédit d'impôt, vous avez le droit à un prêt à taux zéro, mais que vraiment, ça coûte très cher de faire ça. Et là, on manque de moyens pour encourager les gens à faire cette rénovation thermique, parce qu'on récupère l'investissement peut-être dans 30 ou 40 ans. Donc, vous voyez, voilà. Alors, c'est la décision de cette semaine.
À noter. Marie-Monique Romain, donc vous êtes dans le 93, vous l'avez dit. On va dire, allez, c'est Pierre Fitte, on peut le dire. Vous êtes à une encablure de Gonesse. Alors, je voudrais qu'on dise un mot du projet Europa City, d'aménagement. Donc, pour résumer et faire très vite, c'est entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport Charles de Gaulle.
Ouais, tout à fait.
Projet de parc de loisirs avec piste de ski, centre aquatique,
ouais,
etc.
Ouais, 250 000 m² de boutiques et de restaurants. Bétonnage des dernières terres agricoles extrêmement fertiles de l'Île-de-France. Vous l'avez dit, piste de ski. Ça va coûter 3 milliards d'euros.
Vous êtes la marraine de l'association qui lutte contre ce projet.
Oui, parce que c'est absolument symbolique, mais c'est un combat absolument important. On ne peut pas perdre ces terres agricoles quand on parle de transition alimentaire, quand on dit que les cantines doivent passer en bio, etc. On a besoin de production d'aliments près de Paris. Et on ne peut pas laisser ça. Et il y a pourtant urgence parce que le projet a été retoqué 3 fois, mais le gouvernement français a fait appel de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler le décret préfectoral. Et là, bientôt, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à construire la gare de métro en plein champ pour faire un fait accompli, si vous voulez, alors que le métro lui-même, c'est la ligne 17 Nord, hein, est repoussé au calendrier grec, on parle de 2027. Donc c'est très grave parce que le préfet du Val d'Oise vient de donner son accord pour commencer les travaux, alors qu'on ne sait même pas si la ligne de métro aura lieu. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train d'occuper le terrain et qu'ils vont salir ces terres agricoles. Et donc la mobilisation va être forte dans les semaines qui vont venir.
On va en reparler. Projet piloté, faut le dire, par le groupe Auchan.
Voilà. Oui, avec le Wanda qui est un Chinois, qui est le numéro 1 des parcs de loisirs en Chine et qui est l'un des partenaire de ce projet.
Europa City, on en reparlera, Marie-Monique Robin, c'est promis. Mais on va passer aux bonnes ondes de Sandrine Houdin, comme tous les vendredis. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, on va faire la connaissance de Peyo, un cheval absolument hors du commun. Et s'il est l'invité d'honneur du Salon du Cheval, qui se tient en ce moment à Paris-Norville-Pinte, c'est pas pour ses qualités d'artiste, il a arrêté les spectacles, c'est pour ce qu'il arrive à faire dans les hôpitaux, un cheval. À l'hôpital, j'ai cru à une plaisanterie.
Pas du tout, je vous raconte. À la fin des spectacles, au moment de la séance photo par exemple, Peyo allait toujours se coller au même type de spectateurs. Des personnes âgées très mal en point, des enfants malades, des personnes souffrant d'un handicap même invisible. Le cheval était comme attiré jusqu'à détecter la zone touchée par un cancer. Hassen Bouchacourt, son dresseur, se dit « là c'est pas possible, il y a un truc ». Il a réussi à convaincre des établissements de tester Peyo auprès des malades.
C'est-à-dire
qu'à son contact, juste par sa présence, un malade d'Alzheimer retrouve tout d'un coup des souvenirs. Un patient qui ne se levait plus depuis 2 ans se remet à marcher et à prendre l'escalier. Une femme âgée qui ne parlait plus que le hongrois retrouve un français parfait, quel que soit le service. Alzheimer, oncologie, gériatrie, partout les mêmes progrès.
Ça paraît tellement énorme que j'ai toujours du mal à vous croire.
Mais vous n'êtes pas la seule, les médecins étaient très très sceptiques. Maintenant, ils le réclament, ils l'ont même carrément baptisé, décidément, ce docteur Peyo.
Alors le mieux, Sandrine, je pense, c'est de le voir faire. On part pour ça au centre hospitalier de Calais, dans l'unité des soins palliatifs, où le cheval arrive à détecter le patient dont il faut s'occuper le plus rapidement possible, avant même l'équipe médicale.
Hassen passe 2 heures à préparer son cheval. Le protocole sanitaire est évidemment super strict.
Peyo donc est tondu, déparasité, tressé, champouiné. Les pieds sont désinfectés, bien sûr. Et puis le gros du travail pendant 2 ans a été de lui apprendre à faire ses besoins sur commande, comme à un chien. Sans ça, il était impossible de rentrer à liquider dans un centre de santé.
Avant d'arriver, vous dites pipi crottin et il fait.
Exactement.
Peyo, comme, arrière.
Ascenseur. L'ascenseur, l'escalier, le carrelage, le lino sous les sabots, les talons, a pris l'habitude.
Bonjour Peyo. Non, j'ai rien à manger. Alors, tu veux aller voir qui? Hein? On va te laisser.
Alors là, vous lui dites rien du tout, vous laissez faire.
Voilà, c'est moi qui le suis quand on arrive dans le couloir. Maintenant, c'est docteur Peyo qui commande.
Ah oui, là, vous ne bougez pas, là. Hop, il avance.
Ouais.
Avant de rentrer, Peyo était resté bloqué sur la chambre 10 depuis son enclos à l'extérieur. On l'a vu taper sur la fenêtre. On dirait qu'il cherche le malade.
Souvent, on essaie de faire le test pour cacher la personne et de laisser Peyo la retrouver.
Et alors ?
Il retrouve à chaque fois.
Il s'arrête. Chambre 10. Incroyable.
Il monte la chambre.
Ouais. C'est mauvais signe. Hein ?
C'est votre mari, madame, qui est dans cette chambre ?
Je pense qu'il doit le sentir.
Et là, qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'est approché de la personne. Il a fait partir toutes les personnes dont il n'a pas choisi la présence, quoi.
Vous avez de la concurrence, hein ?
Peut-être un peu.
Docteur Cécile Baélène, chef de service.
Peyo est considéré comme dans le service comme un collègue.
Et vous, pesez vos mots ?
Et je pèse mes mots. À des moments où nous, on était un petit peu dépourvus, parce que les médicaments ne faisaient pas l'effet, que le passage de la psychologue ne faisait pas l'effet non plus, les massages n'apportaient pas de réconfort, on s'est aperçu que le passage de Peyo avait radicalement changé les choses. Moins de médicaments, de benzodiazépines, moins d'anxiété. C'est vraiment un soignant à part entière.
Comment vous l'expliquez, ça ? Vous êtes médecin, donc vous êtes très rationnel.
Dans le service, on accepte maintenant, on n'essaie plus de chercher pourquoi, on accepte le fait que ça marche.
Et des médecins aux aides-soignantes.
Parfois, le patient est plus ou moins serein. C'est la famille qui est autour, qui angoisse. Avec son sabot, il tape dans la porte et il montre que c'est dans cette chambre-là qu'il veut rentrer. C'est inexplicable.
Sans ordre d'Hassen.
Aucun ordre. Tout seul. Faut le vivre pour le croire. Moi, j'ai eu le cas d'un patient qui refusait de manger depuis quelques jours. Hassen nous a proposé le seau de croquettes de Peyo dans la chambre et le patient a repris l'alimentation. Lorsqu'on en parle, on a les frissons.
Les familles aussi. Très ému.
Ah ouais, c'est beau, hein. Il ressent la douleur, la souffrance des gens.
Peyo vous apaise également, vous,
aussi,
famille.
Aussi. Mon mari est en fin de vie, on vient ici, c'est pas pour rien. C'est un amour de cheval.
Et quoi derrière, alors ? C'est quoi, sixième sens ?
Je ne trouve pas les mots tellement c'est difficilement explicable. Je me retiens, et puis les docteurs aussi, on se retient tous d'utiliser le mot « miracle ». Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Réussir à ouvrir des tiroirs dans le cerveau de personnes Alzheimer, à obtenir des souvenirs, des personnes retrouvant la force de se lever, de marcher à nouveau, des choses qui ne sont malheureusement pas possibles avec les médicaments. Voir les soignantes ensuite en pleurs, c'est troublant.
Les talons sillonnent les hôpitaux des quatre coins de France jusqu'à Caen la réponse.
J'ai la chance de compter sur environ 150 soignants et chercheurs, donc notre but à nous est scientifique. Si on n'arrive pas à démontrer ou à prouver qu'il arrive à détecter tumeurs, cancers, diminuer les morphines, les anxiolytiques chez le patient, je ne vois pas l'intérêt de faire rentrer un équidé dans un établissement de santé. L'idée, c'est pas de sortir un cheval du box et de le mettre dans un établissement de santé, ça c'est ridicule. Et moi, tant que Peyo a cette capacité à améliorer l'envie de se battre et de vivre chez un patient, j'accompagnerai Peyo. Le jour où il n'a plus envie, on arrête et on fait autre chose.
Peyo.
Incroyable, Sandrine.
Moi, j'ai cru qu'il y avait une caméra cachée, mais je peux vous dire que c'est vraiment réel.
Et il a même sa page Facebook.
Exactement, les sabots du cœur.
Les sabots du cœur, et on peut le voir, Peyo, au Salon du Cheval.
Oui, mais enfin, si vous le voyez, si vous le voyez, vaut mieux.
Oui, vaut mieux pas qu'il approche trop. On a compris. Incroyable, hein, Marie-Monique Robin. Vous êtes scotché, hein.
Oui, complètement dingue.
Peut-être un sujet pour un futur film. Hein.
C'est intéressant. Voir comment, pourquoi et puis ce qu'il peut y en avoir d'autres. Tu peux pas faire des petits.
Marie-Monique Robin, on peut vous demander sinon sur quoi vous travaillez actuellement ou c'est top secret votre prochaine enquête, prochain film.
Top secret.
C'est top secret. C'est près de chez nous ou c'est au bout du monde?
C'est partout.
Oula.
Mais beaucoup chez nous et voilà.
Vous êtes un peu citoyenne du monde. Hein.
Oui. Oui, oui.
Alors
il y a des territoires, des pays, des continents où je suis. Bon, l'Amérique latine, c'est.
C'est votre vraiment... deuxième maison.
Ah ouais, c'est. Je suis des corazón. Mais voilà, j'ai.
Heureusement que vous êtes polyglotte d'ailleurs. Hein.
Oui. Ça aide beaucoup.
Combien de langues vous
Alors,
parlez?
Je parle tout, enfin, sans arrêt l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Mais j'ai fait dans une vie antérieure des études d'arabe. Et là, j'apprends l'hindi. Mais moi, j'aime bien les langues. Hein. Voilà. Ça me permet de rentrer en contact avec les gens. Enfin, voilà. Y a un pays que j'ai beaucoup aimé, c'était le Sri Lanka, quand j'y suis allée pour le Roundup, le glyphosate, où j'ai envie de retourner. J'adore les langues et j'adore les gens qui parlent les langues.
Et vous adorez voyager.
Ouais, alors ça me pose un problème, en fait, maintenant. Je vous dis que, franchement, vous me demandez ce qu'on fait. Alors moi, par exemple...
Et pourtant, je vais vous dire, c'était peut-être avant que c'était plus compliqué. Vous avez quoi, non, trois alors, filles, quand elles étaient petites,
non,
c'était
j'ai
peut-être
un
pas
petit
simple.
Peu, je, souvent, on me dit, c'est pas bien l'empreinte écologique, tout ça. Alors, j'ai fait le ménage dans ma tête. Je me suis dit, en France, je ne prends plus l'avion. J'ai un problème avec Toulouse, parce que c'est quand même c'est loin. Mais vraiment, je ne veux plus prendre l'avion. Et puis, limiter les voyages pour les vacances, voilà. Et pour mon travail, je continuerai de prendre l'avion. Mais je vous dis ça parce qu'il y a encore 5 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Vous voyez, c'est comment on fait aujourd'hui? Il va falloir arrêter de prendre l'avion. Alors, je refuse de prendre des compagnies low cost, par exemple.
Est-il vrai que vous avez un projet de roman? Ce qui
oui.
serait différent.
Vous
oui.
êtes bien informé, vous?
Ben, on essaye. On se renseigne.
Oui, on essaye de. Oui. Alors, il a toujours été repoussé parce que j'ai la chance de pouvoir faire un film, un livre souvent. Et finalement, excusez-moi l'expression, je prends vraiment mon pied à faire les deux. Les films et les livres, mais oui.
Bon, bah vous nous direz quand ce sera fait. Marie-Monique Robin, de toute façon, vous restez avec nous parce qu'après le journal de 19h, le téléphone sonne sera consacré à des territoires qui sont déjà en transition, c'est fait pour vous. On s'est dit que la meilleure façon de montrer que ça marche, c'était de donner la parole à des élus qui ont décidé de passer à l'action. Concrètement, on sera avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, en duplex. On sera avec le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Et avec le maire d'Ungersheim, dans le Haut-Rhin, Jean-Claude Mensch. C'est une commune que vous connaissez bien, Marie-Monique Robin, ouais. Puisque vous lui avez consacré un documentaire intitulé « Qu'est-ce qu'on attend ?» Hein, c'est bien ça.
Premier film pour le cinéma.
Voilà. Bien. Pour interpeller tous ces maires, le numéro du standard est toujours le même. Il n'a pas changé, c'est le 01 45 24 7000.